Vous écoutez RFI, il est 20h en temps universel, 22h à Paris et Bruxelles.
Clémentine Pavlotsky.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Clémentine, bonsoir à tous.
À la une, le sommet de l'OTAN, les alliés transatlantiques sont réunis à Bruxelles. Ils ont notamment affiché leur unité face à la Chine et la Russie.
En Israël, c'est le début d'une nouvelle ère politique. Un nouveau gouvernement est entré en fonction sans Benjamin Netanyahou. Nous entendrons la réaction du premier ministre palestinien.
Nous irons aussi en Corée du Sud, où la campagne de vaccination contre le Covid-19 progresse rapidement. Les autorités ont décidé d'assouplir les mesures sanitaires.
Et puis nous reviendrons sur la démission du président de la Fédération internationale de basket, le Malien Aman Niang. Une enquête du New York Times l'accuse d'avoir ignoré des abus sexuels sur de jeunes joueuses maliennes.
Un journal.
Le journal en français facile.
En français facile.
Le sommet de l'OTAN s'est ouvert aujourd'hui à Bruxelles.
Oui, journée de retrouvailles entre les dirigeants et chefs de gouvernement de l'OTAN. Retrouvailles entre les deux rives de l'Atlantique. L'objectif des dirigeants est de revitaliser l'organisation après 4 ans de présidence Trump. Et ces missions réussies, selon les 30 alliés, très satisfaits de pouvoir à nouveau compter sur le président des États-Unis, Joe Biden. Les dirigeants se sont d'ailleurs montrés très unis face à la Chine et face à la Russie. Les précisions de Pierre Benazé.
L'Amérique est de retour, la diplomatie est de retour. Les slogans de Joe Biden étaient exactement ce que voulaient entendre les 29 autres alliés. Ils se sont employés à donner des gages au président des États-Unis. Dans leur déclaration finale, ils ont en quelque sorte ajouté la Chine à la Russie comme adversaire de l'OTAN. Ils ont choisi de qualifier les attitudes et la politique internationale chinoise de défis systémiques pour l'OTAN, même si le terrain d'action de l'Alliance va déjà de la Bosnie jusqu'à l'Afghanistan, qui a, soit dit en passant, une frontière avec la Chine. Il ne s'agit pas pour autant de l'étendre encore, selon le secrétaire général Jens Stoltenberg. Il répondait en cela au scepticisme exprimé la semaine dernière par Emmanuel Macron. Pour Jens Stoltenberg, la Chine menace des intérêts alliés sur leur territoire propre, par exemple sur le plan économique ou par le biais de cyberattaques, et c'est donc sur leur propre terrain que les 30 pays de l'OTAN doivent faire face à la Chine. Ce n'était cependant qu'un des axes de ce sommet qui a relancé un nouveau concept stratégique pour faire face aux défis de demain, le climat, l'espace, le cyberespace, de nombreuses priorités pour ce sommet des retrouvailles transatlantiques. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Et dans le cadre de ce sommet de l'OTAN, les présidents français et turcs se sont rencontrés. Emmanuel Macron affirme que le climat était apaisé. Lui et Recep Tayyip Erdogan se sont engagés à travailler ensemble sur la Libye et la Syrie. Les relations entre les deux dirigeants se sont apaisées ces derniers mois. Elles s'étaient beaucoup dégradées en 2020, notamment lorsque le président turc avait mis en cause la santé mentale d'Emmanuel Macron. Recep Tayyip Erdogan s'est aussi entretenu avec le président des États-Unis, Joe Biden. Il dit avoir eu un entretien très productif et sincère avec son homologue américain. Le dirigeant turc précise qu'aucun problème dans les relations entre les deux pays n'est insurmontable.
Le journal en français facile.
Une page se tourne en Israël. Benjamin Netanyahou n'est plus Premier ministre.
Il occupait ce poste depuis 12 ans, mais hier, le Parlement israélien a voté pour une nouvelle coalition, la coalition du changement. Elle est dirigée par le chef du parti d'extrême droite nationaliste, Naftali Bennett. Il occupera le poste de Premier ministre pendant 2 ans. Il sera ensuite remplacé par le centriste Yair Lapid. Des milliers de personnes se sont rassemblées hier soir à Tel Aviv pour célébrer ce changement de gouvernement. Pour les Palestiniens, en revanche, le nouveau pouvoir ne changera rien. Le Premier ministre palestinien Mohamed Stayeh s'est exprimé cet après-midi. Il demande au gouvernement israélien de mettre fin à l'occupation et à la colonisation des territoires palestiniens.
Le départ du Premier ministre israélien du gouvernement après 12 ans au pouvoir marque la fin de l'une des pires périodes de l'histoire du conflit israélo-palestinien. Une période aussi mauvaise que la période où le président Trump était au pouvoir aux États-Unis avant d'être mis dehors par les urnes. Mais nous ne considérons pas le nouveau gouvernement comme moins mauvais que ses prédécesseurs. Nous condamnons l'annonce du nouveau Premier ministre, Naftali Bennett, et son soutien à la colonisation, en particulier dans les zones C. Et nous réitérons que notre peuple continuera à faire face à ces tentatives, les mêmes que son prédécesseur. Ce que nous attendons du nouveau gouvernement israélien, c'est qu'il commence à travailler pour mettre fin à l'occupation et à ses outils coloniaux tels que les colonies, et qu'il reconnaisse les droits légitimes du peuple palestinien.
Le premier ministre palestinien Mohamed Staye, qui réagissait donc au changement de gouvernement en Israël. De son côté, le Hamas palestinien affirme que la nouvelle coalition au pouvoir ne change rien aux relations entre les deux ennemis.
Et puis autre réaction, Clémentine, celle des États-Unis.
Oui, le président américain Joe Biden dit avoir hâte de travailler avec le nouveau premier ministre israélien Naftali Bennett. Les deux hommes se sont parlé au téléphone. L'Allemagne affirme aussi vouloir coopérer étroitement avec le nouveau gouvernement. Enfin, la France se dit prête à accompagner tout effort permettant une reprise du dialogue entre Israéliens et Palestiniens.
Et voilà qui pourrait justement envenimer la situation. Le nouveau gouvernement israélien donne son feu vert à une manifestation controversée.
Des militants juifs, nationalistes et d'extrême droite ont effectivement prévu de marcher demain à Jérusalem-Est, un secteur palestinien occupé par Israël. Le Hamas a menacé l'État hébreu de représailles si cette marche a lieu près de l'esplanade des mosquées, le troisième lieu saint de l'islam. Et enfin, en Israël, toujours, le masque contre le Covid-19 ne sera plus obligatoire dans les lieux publics fermés à partir de demain. L'annonce a été faite ce soir par le nouveau ministère de la Santé.
Et au Royaume-Uni, la levée des restrictions sanitaires est repoussée.
Les lieux publics devaient rouvrir le 21 juin. Finalement, ça sera le 19 juillet. Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé le maintien des mesures de lutte contre le Covid-19. Il se dit très préoccupé par le variant Delta, qui se propage plus rapidement que prévu.
Toujours au sujet du Covid-19, la Corée du Sud assouplit ses règles sanitaires.
À partir de juillet, certains résidents en Corée du Sud pourront échapper à la quatorzaine s'ils ont été vaccinés à l'étranger. Jusqu'à présent, cette règle ne s'appliquait que pour les personnes ayant été vaccinées à l'intérieur du pays. Cet allègement des mesures sanitaires est assez unique en Asie. Il est possible grâce à l'accélération très rapide de la campagne de vaccination. Correspondance à Séoul de Nicolas Roca.
La Corée du Sud est restée fidèle à sa culture d'efficacité surnommée Pali, Pali concernant sa campagne vaccinale. Un terme signifiant vite, vite, qui a caractérisé l'impressionnante croissance économique du pays et qui depuis la fin mai s'adapte parfaitement à la vaccination. En passant de 8 à 23% de la population ayant reçu une dose en quelques semaines, le pays se range désormais au rang des bons élèves au sein du continent asiatique. L'objectif du gouvernement de 13 millions de personnes ayant reçu une dose à la fin juin est déjà quasiment atteint. Et pourtant, la Corée du Sud a longtemps attendu avant de lancer sa campagne du fait de commandes tardives. L'accélération de la vaccination permet désormais au pays d'envisager un futur plus ouvert avec la mise en place dès le mois prochain d'une exemption de quatorzaine pour les personnes ayant reçu les vaccins reconnus par l'Organisation mondiale de la santé. Une ouverture modérée car elle concerne uniquement les résidents et non les touristes. De plus, 15 pays où la situation des variants est jugée préoccupante sont exclus de cette procédure. Une interrogation persiste sur les droits qui seront octroyés à ces vaccinés en dehors de la Corée du Sud. Alors que dès juillet, les personnes ayant reçu le sérum dans le pays seront autorisées à circuler sans masque. Nicolas Roca, Séoul, RFI.
Le président de la Fédération internationale de basket est accusé d'avoir fermé les yeux sur des abus sexuels au Mali.
Oui, le Malien Amanyang a démissionné hier, au moins temporairement. Il a décidé de quitter ses fonctions juste avant la publication d'une enquête du New York Times sur des allégations de harcèlement sexuel sur des joueuses au Mali. Les explications de Tom Rossi.
Pendant 12 ans, de 1999 à 2011, il aurait ignoré au moins une douzaine d'abus sexuels sur des jeunes joueuses maliennes, dont la majorité était adolescente. C'est ce qu'on peut lire dans cette enquête du New York Times publiée ce lundi au lendemain de sa démission. Amanyang a été patron de la Fédération malienne de basketball et ministre des Sports pendant cette période. Il ne pouvait pas ne pas savoir que des entraîneurs maliens abusaient sexuellement de jeunes joueuses, selon Human Rights Watch. Une dizaine d'officiels de la Fédération sont incriminés. Parmi eux, un ami proche de Nyang, Cheikh Oumar Sissoko, ancien président de l'Association des entraîneurs de basketball du Mali, ou encore l'actuel coach de la sélection des moins de 19 ans, Amadou Bamba. Selon plusieurs témoignages, l'ex-ministre de 69 ans aurait même été témoin de scènes d'agression sexuelle sans réagir. Lui nie fermement ces accusations et d'y vouloir coopérer à l'enquête de la Fédération internationale de basket.
Explication signée Tom Rossi, 22h10 à Paris. Excellente soirée à vous sur RFI.